Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata.
Grosse à nous.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h04, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, Bruno Satin avec nous ce soir et on est ravis d'accueillir l'homme qui va... Le héros de tout un pays, exactement.
Le héros d'un pays.
Qui va être le premier donc français à la tête d'une sélection étrangère dans un euro. Voilà, il pourra dire à jamais le premier. C'est Willy Sagnol qui est avec nous, sélectionneur de la Géorgie. Willy, bonsoir.
Et salut messieurs.
Salut Willy.
Salut.
Bon, et on est ravis de te retrouver
sur avec nous, quand même. Hein.
Exactement.
Pardon.
Et oui. Je disais que tu as bossé avec nous pour ceux qui
ah, écoute, ça a été une belle expérience.
Voilà. Ici c'est Willy, grand moment de la radio française il y a quelques années. Je ne sais pas si encore des podcasts dispo qui traînent. On pourrait l'écouter. Bon, bah déjà bravo parce que tu as fait un truc dingue là, parce qu'un petit pays comme la Géorgie, 4 millions d'habitants, hein, voilà, c'est à peu près la taille de l'Uruguay.
Ou la Croatie.
Ou la Croatie. Enfin, qu'il y a une histoire footballistique qui n'est pas celle de l'Uruguay ou de la Croatie, en l'occurrence. Et donc, vous vous êtes qualifié à l'Euro face à la Grèce au tir au but, là. C'était il y a quelques semaines. Et donc, vous en serez. Est-ce que, quand t'es parti là-bas, et quand tu vois où tu es arrivé maintenant, tu te dis quand même que c'était inespéré, ou bien dès que tu es arrivé, que t'as pris tes fonctions, t'avais vu qu'il y avait un potentiel?
Non, ça aurait été un peu présomptueux. Non, quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert les joueurs que je connaissais pas forcément.
Pourquoi tu as dit oui à la Géorgie d'ailleurs? Quelle idée t'a traversé la tête de te dire je vais partir en Géorgie?
J'ai été amené à m'expliquer plusieurs fois déjà sur ça. En fait, c'était voilà période un peu post-Covid, on était encore un peu dedans, et j'avais eu envie de faire quelque chose de différent, d'avoir une aventure différente. Tu sais, moi, je fais partie d'une génération où, par exemple, tu vois, il y a certains entraîneurs qui m'ont marqué, même si c'était pas toujours les plus connus en France, mais tu vois, des mecs par exemple comme Bruno Metsu, j'ai toujours eu envie quelque part, tu vois, de je veux pas dire d'avoir sa carrière parce qu'il a eu une carrière énorme et j'en suis très loin en tant qu'entraîneur, mais tu vois, vivre des choses comme ça, parce que quand tu l'écoutais parler, tu disais mais ce mec il respire le bonheur, il est parti dans des endroits qu'on pense pas toujours quand on est en France, tu sais, dans notre championnat ou dans notre Europe de l'Ouest à nous, avec la Champions League, avec tous ces trucs, mais à chaque fois que tu l'entendais parler, tu disais le mec il est heureux.
Et tu veux dire voilà. Qu'il y avait une volonté de dépaysement, de connaître autre chose, pas d'aventure, que d'un point de vue sportif, qu'il y avait un petit côté aventure en plus du foot.
Complètement. Donc, écoute, j'étais en plus, dans un endroit, le Caucase, où j'ai dû y mettre les pieds une fois, je pense, pour jouer contre eux avec l'équipe de France il y a très longtemps. Mais c'est une partie du monde que je connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas?
Et quand t'arrives alors, tu montes un projet où tu te dis avec cette équipe-là, je peux avoir telle et telle ambition, tu te mets à observer tous les joueurs et le réservoir de joueurs possible. À partir de quand se met en place le plan objectif Euro 2024?
En fait, c'est un plan assez tardif parce que quand je suis arrivé, je me suis vite rendu compte que, comme tu dis, le réservoir, il est pas très large. Tu vois, là, par exemple, pour l'Euro, j'essaye de faire une liste de, tu vois, 35, 36 joueurs, au cas où il y ait des blessés, tu vois, de dernière minute. On va dire que la liste, elle est très vite faite. J'ai pas 35 joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale, par exemple.
Il y a quand même quelques stars, on va y revenir.
La première chose, salut Willy, c'est Bruno.
Salut Bruno.
Ouais, non, moi, pour moi, le soir où ils sont qualifiés, enfin, c'était extraordinaire. J'ai envoyé un message à Steph Courbis pour lui dire, écoute, félicite Willy, parce que les gens se rendent pas compte ce que c'est de qualifier la Géorgie pour l'Euro.
Mais enfin, c'est incroyable, quoi. D'ailleurs, nous, on connaît la valeur des équipes nationales. Alors, c'est vrai que il y avait déjà un truc avant-coureur, même si l'Euro U21 s'était déroulé en Géorgie, en Roumanie, et la Géorgie était en demi-finale. Donc, tu te dis, bon, bah, il y a peut-être quand même des joueurs, et bon, on en avait vu 2-3.
Mais on aura à l'Euro avec toi,
ces joueurs? Là, à se qualifier, ouais, bah, il y en a qui sont relativement jeunes, hein.
Bah quand tu regardes l'équipe qui a été en quart de finale là, du championnat d'Europe espoir, je crois que sur les 21 ou 23, je sais plus, je crois que j'avais 10 ou 11 joueurs qui font partie de mon effectif à moi. Donc ça m'a montré déjà qu'ils pouvaient performer, tu vois, sur un championnat relevé avec la France, avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique, tu vois, même si c'est qu'au niveau espoir, mais ça montrait quand même que voilà, qui pouvait arriver à faire les choses. Mais après, depuis de tout temps, il y a eu des joueurs talentueux en Géorgie, mais souvent ils avaient pêché par le talent avant l'équipe ou le talent avant la discipline. C'était un petit peu ça les problématiques. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles la fédération, je pense, avait fait appel à moi par rapport un peu à mon passé allemand, voilà, donc avec discipline, avec toutes ces choses là
Il y en a eu pas mal qui étaient en Allemagne, il y en a eu pas mal, enfin bon, ouais, nous, ouais. On se souvient, bon, t'as dû en côtoyer quelques-uns, puisque je crois qu'il y en a un qui est team manager de l'équipe nationale maintenant, mais bon, on se souvient des Klinkladze, le Maradona géorgien, on se souvient de Ketsbaya, on se souvient de Kaladze, bien sûr.
Kaladze à Milan, chez Verdazé.
Exactement. Après, c'est pas quand vous regardez l'histoire, c'est pas du tout la génération la plus talentueuse, on va dire des 30 et quelques dernières années ou des 30 années ou depuis que la Géorgie est indépendante, c'est pas la génération la plus talentueuse, mais voilà, on a réussi à créer quelque chose, une forme d'unité, une forme de voilà, on a d'abord travaillé sur le groupe, puis sur l'équipe, avant de travailler sur les individualités. Et voilà, je suis super, super content et super fier de tout le travail que tout le monde a, que ce soit le staff, les joueurs, la fédération, que tout le monde a fait.
Alors, il y a une histoire quand même du foot en Géorgie. Il y a maintenant longtemps, le Dynamo de Tbilissi avait gagné une Coupe d'Europe, du temps de l'URSS. Le football n'est pas né là, il y a quelques années, avec Kaladze et les autres.
Non, mais quand tu regardes l'histoire de ça, tu sais comment ça marchait à l'époque de l'Union soviétique. Ils prenaient les 15-20 meilleurs joueurs de l'Union soviétique, ils les foutaient tous dans un club. Donc t'as eu la période Dynamo de Tbilissi, après t'as vu la période Dynamo de Kiev. Tout dépendait un petit peu du sélectionneur, de quel pays il était, et puis ils foutaient tous les joueurs dans le même club. C'est un peu comme ça que ça marchait à l'époque.
Exactement. Et moi, d'ailleurs, il y a des bouquins passionnants sur le foot soviétique, si ça vous intéresse, notamment Beria, qui était un foot et qui, en gros, truquait les championnats en fonction de l'équipe qu'il voulait voir gagner.
Et ça remonte à assez loin.
Il faut le dire. Et d'ailleurs, il était géorgien, Beria. Ouais. Bref. Oui, Stéphane.
Pour revenir aux raisons qui t'ont amené là-bas, ce qui m'avait frappé lorsque vous avez obtenu cette qualification, c'est ton bonheur, ta joie, telle que tu l'as exprimé. Et par rapport à un parcours de joueur quand même qui a été incroyable, avec un palmarès incroyable, on a l'impression que c'était presque le plus beau moment de ta vie de footballeur.
Bah, c'est difficile de comparer parce que quand t'es joueur, on va dire que t'es un acteur, t'es l'acteur premier parce que t'es sur le terrain. Et par des passes, par des centres, par des tirs, ouais, par des tacles, tu peux influer sur un résultat très rapidement. Quand t'es entraîneur, même si tu travailles dur pour avoir des résultats, parfois t'as l'impression aussi de subir un petit peu les choses. Donc ça peut pas être les mêmes émotions. Et justement, je dirais que c'est encore plus fort parce que comme t'as eu une carrière de joueur avant, tu peux mesurer les choses que tu réalises. Quand t'es joueur, t'es dans ton tunnel, tu fonces, tu fais ta carrière, t'essayes de gagner des matchs, des compétitions. Mais quand tu gagnes quelque chose de gros, t'as souvent ce truc en toi, quand t'es joueur, de te dire, bah, je vais le gagner encore. Ou je vais encore faire la même performance. Donc, en fait, tu mesures pas toujours l'ampleur de ce que tu fais. Quand t'es entraîneur, c'est différent, parce que voilà, t'es plus vieux, t'as plus de bouteilles, t'as plus d'expérience. Mais c'était une joie, qui est difficilement. Même encore aujourd'hui, un mois après, j'ai du mal à la décrire.
Mais comment s'organise ta vie, Willy? Toi, tu vis en Géorgie?
Ah, j'y suis.
Metsu, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il s'installait en général dans les pays qui dirigeait, quoi.
Et Hervé Renard. Bah,
j'y suis. Allez, on va dire, j'y suis 7 mois de l'année. Je suis en Géorgie. Tu vois, je suis plus là-bas
quand même
que,
7 mois.
France, ouais.
7 mois dans l'année,
Oui.
Donc t'es pas un turbo sélectionneur comme il y avait les turbo profs là qui faisaient les allers-retours entre Paris et la province.
Non, mais vraiment,
tu vis au rythme du pays géorgien.
Je pense que c'est une question de respect
fondamental.
Tu peux pas aller au plus profond de ce pays, aller chercher les joueurs, aller chercher l'adhésion du public, aller chercher l'adhésion des clubs. Si toi-même tu passes pas la plupart de ton temps là-bas, c'est pas possible.
Oui, ça c'est sûr.
Tu parles un peu. Toi, tu parles allemand très bien, évidemment. Tu parles un peu géorgien, Willy. T'as appris quelques mots.
Allez, je dois avoir une trentaine de mots, mais avec ces 30 mots, je peux pas faire une phrase. Voilà.
Non, mais par contre, c'est
avoir 30 mots et pas réussir à faire une phrase.
Ce qui est hyper important, c'est que bon, quelque part, et je sais qu'il y avait il y a une quinzaine de jours, il y avait un séminaire de l'UNECATEF qui se posait la question pourquoi on n'a pas plus d'entraîneurs français qui s'exportent ou qui trouvent du boulot ailleurs, que ce soit en club ou en sélection.
L'UNECATEF dirigé par.
Je sais pas, apparemment il y a une cabale. Donc,
jusqu'à présent.
Mais bon, justement. En tout cas, il faudrait se faire putcher. En tout cas, le syndicat dans son ensemble se posait la question et il se trouve qu'ils ont pensé à nous inviter. Donc, il y a un de nos membres qui est allé échanger.
Le syndicat
des agents. Ouais, et donc ils sont partis échanger avec eux. Et donc, mais bon, la meilleure pub, c'est effectivement quand il y a des entraîneurs français qui réussissent. Et bon, ça c'est un exemple extraordinaire parce que ça peut inspirer d'autres sélections qui trouvent pas forcément chez eux un coach adéquat. Et qui se diront peut-être, ah bah tiens, il y a des Français qui réussissent, quoi.
Alors, parlons de l'Euro, Willy, parce que donc, dans le groupe de la Géorgie, je parle dans l'ordre des matchs, il y aura un premier match contre la Turquie, deuxième match contre la République tchèque, troisième match contre le Portugal. Du coup, quel est l'objectif de la Géorgie?
C'est déjà de trouver des matchs amicaux pour se préparer. Parce que quand t'es une petite nation, c'est pas facile. À tel point que même pour l'instant.
Bah franchement, la France joue le Luxembourg. Ça aurait été une bonne idée de jouer la Géorgie. Ça aurait été bon.
Après jouer la France, tu sais.
Tu veux pas forcément jouer des gros.
Écoute, si c'est pour m'en prendre 8 en termes de confiance, il y a mieux, tu vois.
Je comprends.
Parce que on sait, même si on s'est qualifié, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on est, et surtout on sait ce qu'on n'est pas. Donc, tu vois, on est vraiment. Quand tu cherches des matchs amicaux, bah pour te préparer, tu veux quand même, parce que tu vas faire des rotations, tu vas essayer de préparer tes joueurs. Physiquement, ils seront pas tous au même niveau.
Oui, tu veux acquérir de la confiance aussi, quoi. En fait.
Exactement. Donc déjà, on a un match qui est prévu contre le Monténégro, qui est une belle équipe pour nous, le 9. Mais par exemple, tu vois le 4 ou le 5, c'est impossible de trouver un match. Donc tu vois, on va se rabattre. Je vais essayer de faire, tu vois, une sélection, par exemple des bons joueurs géorgiens qui jouent dans la ligue géorgienne. Et puis je pense qu'on va faire ça.
Bon, oui, match amical entre vous, quoi, en quelque sorte.
Et comment tu vas,
maillot contre les torse nu.
Ces matchs-là, comment tu vas les aborder, comme le petit qui va jouer que contre des gros et donc ça va être tactiquement, le bloc bas, tu vas attendre. Comment tu vas les aborder, ces matchs-là? Comment tu vas préparer ça? Parce que moi, j'ai pas vu tous les matchs que tu as fait avant. Je sais pas comment joue la Géorgie, en fait. Comment t'as mis tout ça en place?
Écoute, quand t'es une équipe nationale comme ça en Géorgie, où t'as pas, comme je t'ai dit, t'as pas 200 joueurs, donc on va dire tactiquement, c'est presque les choses qui s'imposent à toi, plutôt que ta, entre guillemets, ta philosophie, qui est un grand mot, ta philosophie de jeu, tu vois. C'est pas possible sur une sélection comme ça à mettre en place. Donc, t'essaies de t'adapter aux joueurs que tu as. Moi, j'ai des joueurs parce que c'est un peu la culture géorgienne qui est comme ça, par exemple, c'est que quand ils ont un ballon, ils ont envie d'aller tout de suite vers l'avant. Tu vois, j'ai des joueurs qui peuvent aller vite, qui peuvent être très performants dans la transition. Donc, pour moi, ce qu'on essaye de mettre en place, je dirais, surtout sur les 18 derniers mois, c'est d'avoir un bloc pas forcément bas, mais un bloc très dense, et surtout d'aller très vite une fois la récupération du ballon. Parce que j'ai pas forcément le genre de joueur qui peut faire jouer l'équipe. Tu sais, un milieu de terrain comme un Griezmann, par exemple, qui va t'alterner les temps forts, les temps faibles. Ça, j'ai pas ça.
Alors parlons justement des joueurs, parce qu'il y en a quand même qu'on connaît, hein, évidemment, j'en cite quelques-uns. Là, bon, Miko Tadze, bien sûr, qui va alors peut-être.
Surtout qui nous parle de Miko Tadze, Willy.
Qui va peut-être à lui tout seul maintenir Metz. Il y a évidemment Kvaratskhelia, qu'on connaît bien au niveau européen.
Ça fait quand même deux très bons attaquants.
Il y a le joueur de Bordeaux, David Ashvili. Il y a Kankava, qui est assez âgé maintenant, mais qui est passé par la France. Donc bon, t'as quand même des gars sur lesquels tu peux t'appuyer, quoi. Des gars dans le milieu.
Offensif du Sturm Graz également, qui est international géorgien.
Ouais, qui était Julien. Ouais.
Titulaire, bah, lui, toi.
Ouais. Oui, il est titulaire. Et moi, par exemple, moi, c'est un peu un choix que j'ai fait quand tu regardes mon équipe. Alors, parfois, on m'a reproché de jouer un petit peu bas ou d'être un peu frileux. Mais quand tu regardes notre équipe, on a quatre joueurs défensifs de formation. Et tout le reste, c'est quasiment que des attaquants ou des milieux offensifs. Tu vois, moi, c'est un choix que j'ai voulu faire parce que tu t'adaptes, comme je te dis, aux joueurs que tu as, et j'ai voulu quand même essayer d'avoir un milieu de terrain. Alors j'ai réussi à trouver au fil du temps, avec des joueurs aussi qui se sont révélés un petit peu, tu vois. Je pense à, il y a un joueur que je trouve fantastique, qui joue à Levante en seconde division espagnole, qui s'appelle Kocorashvili, qui a une personnalité incroyable et je l'ai pris parce qu'il a commencé à jouer simplement l'été dernier avec son club alors qu'il a déjà 23 ans, et il m'a changé beaucoup de choses au milieu de terrain, par exemple, où on a maintenant un milieu de terrain capable de récupérer des ballons mais de jouer aussi, ce qui n'était pas forcément le cas au départ.
Puis t'as le gardien de Valence quand même.
Le gardien de Valence, ouais. Non,
t'as pas une gifle dans les bus,
Kvaratskhelia,
hein.
Non, non, Kvaratskhelia devant, Mamardashvili dans les cages. C'est sûr, quand t'as un très bon gardien et un très bon attaquant, les choses deviennent un petit peu plus faciles. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de Miko Tadze, de ce séjour raté à l'Ajax et de ce retour tonitruant à Metz? Quelle est ton analyse par rapport à ça?
Mon analyse, c'est que c'est un joueur qui est talentueux. Je pense que le fait qu'il se révèle un petit peu sur le tard, parce qu'il a déjà 23, il va faire 24, je crois, cette année. Je crois que c'est un joueur qui, à mon avis, quand il était jeune, il n'a pas assez travaillé. Il n'a pas travaillé assez dur. Je crois d'ailleurs qu'il est passé par le centre de formation de Lyon, où ça ne s'est pas bien passé. Mais c'est un joueur qui commence maintenant, voilà, à comprendre que pour y arriver, il faut travailler dur, il faut travailler très dur. Il y a eu l'échec de l'Ajax, mais je pense que c'est un échec qui l'a fait encore plus mûrir. Et je pense que, voilà, il est en train de se relancer. C'est comme je sais pas qui c'est qui l'a dit, j'ai entendu, mais c'est presque à lui tout seul, il va presque réussir à faire maintenir Metz.
Ouais. Et dis-moi, ils ont tous des surnoms, tes joueurs, parce que le nom complet, c'est trop compliqué.
Déjà, sur les 23, je crois que je dois avoir 12 ou 13 mecs qui s'appellent Georgi, c'est leur prénom. Donc, ça, déjà, le prénom, tu l'oublies. Donc oui, mais souvent, leur surnom, c'est leur nom un peu contracté. Ouais, Mamardashvili, c'est Mamar. Kvaratskhelia, c'est Kvara.
Voilà. C'est ce que je dis, les surnoms. Sinon, ça ne sort pas. Kvaratskhelia, c'est Kvara.
Ouais, voilà.
Oui.
On a Johan au 32-16 qui est bordelais, qui veut parler de David Ashvili. Salut Johan.
Bonsoir, vous m'entendez bien?
Très bien.
Appelle-le Davidi, tout simplement.
Oui, déjà, je suis content d'avoir Stéphane Guy parce que j'ai eu l'honneur de le rencontrer une fois. Bon, il était déçu ce jour-là parce qu'il était passé dans ma pâtisserie dans le 6e arrondissement et j'avais pas de flan ce jour-là.
De flan.
Voilà. Il est parti en disant, c'est quoi cette pâtisserie? C'est pas Valladolid? Donnez-moi le flan, je me souviens
très bien de cette pâtisserie. Mais pourquoi t'es un fan des flans?
Parce que c'est un spécialiste des flans, normalement. Non,
mais toi, est-ce que toi, t'aimes les flans?
Bah, j'aime bien les flans, ouais.
Ah, parce que moi, je connais le meilleur de Paris. La prochaine fois,
c'est
chez Lyon, peut-être.
Ah, moi, c'est. Non, c'est pas celui. Attends, celui de rue de la Convention?
Ouais. Il y en a un qui est rue de la Convention,
qui était venu ici?
Ouais. Je crois.
C'est lui.
Bah, je sais pas, Johan, c'était là que
Alors moi, il est soit dans le 6e,
rue de Seine. Ah, on parle pas du même.
Non, mais Johan,
on a bien rue de la Convention. C'est un Alsacien, d'ailleurs, je crois.
Mais le meilleur, je te le garantis, il est rue Chardon-Lagage dans le 16e.
D'accord.
Il a gagné le premier.
Ça peut être pas mal, ouais. Non, ça peut être pas mal. Mais dans le 18e, c'est meilleur.
Il a quand même gagné le premier prix du flanc de Paris.
À côté de la butte Montmartre.
Bon, excusez-moi, mais faut qu'on reparle.
Je me fie au titre. Il a gagné le titre.
Bon, Johan, je t'invite à venir un soir dans l'after nous faire goûter.
Oui, viens.
Bah, pas de soucis. Hein.
Bien que t'es fou.
Bon, mais tu bosses pas pour un Alsacien, Toder, Johan?
Non, il est breton.
Ah, il est breton. Bon, c'est pas le même.
Ouais. Tu as Willy Sagnol avec toi. Revenons à Bordeaux et à Domitashvili.
Bah, déjà, merci à Willy pour ses deux années à Bordeaux, même si c'était un peu mal fini, mais merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant, les matchs, la Coupe d'Europe. Ma petite question,
c'était
c'est
mieux
très
qu'aujourd'hui,
simple.
Hein, Bordeaux, évidemment.
Oui, ah bah ça, oui, ça c'est sûr. Hein. Ma petite question pour Willy, ça serait sur quoi doit progresser Zouka ? Donc nous on l'appelle Zouka à Bordeaux, parce que bon, avant qu'il, quand il est arrivé chez nous, on voyait que c'était un joueur qui avait quand même de la percussion, bon, qui manquait de finition. Pendant quelques mois cette année, c'était compliqué. Là, depuis qu'il s'est qualifié avec la Géorgie, j'ai l'impression de retrouver un joueur qui est libéré d'un poids et qui progresse en vitesse lumière, quoi.
Donc, ouais, écoute, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. J'ai regardé ces derniers matchs et j'étais même au stade d'ailleurs le dernier avec son joli but, le lob qu'il a mis. Je pense qu'il fait partie des joueurs comme j'en ai d'autres en Géorgie. Je pense que cette qualification va leur permettre de se libérer un peu, de plus être, tu vois, considéré comme membre d'un pays qui se qualifie jamais, qui perd toujours, et je pense que ça va en libérer quelques-uns. Et je pense que oui, Zouka s'est libéré un peu de ça. Déjà, quand tu me parlais de sa progression, je trouve déjà qu'il lève un petit peu plus la tête, il a moins la tête dans le guidon. Parce que au début c'était un peu insupportable, même quand je regardais des matchs avec Bordeaux, parfois tu le voyais aller dans un mur, mais il y allait vraiment la tête première. Là il est, voilà, je le trouve plus mature sur ces derniers mois, c'est plus mature, c'est, et donc plus efficace, et si les Girondins voilà, ont quand même sorti un peu la tête de l'eau là surtout sur le dernier match, ça leur permet de voilà, d'éviter d'avoir une fin de saison compliquée. Ils le doivent aussi en grande partie grâce à lui, parce que là, les 4-5 derniers matchs qu'il a fait, c'est plutôt intéressant.
Et comment tu dis tête dans le guidon en géorgien?
Tu dis pas.
Tête dans le guidon, je vais lire. Ouais.
J'ai une question un peu géopolitique là, parce que la Géorgie est un pays assez instable. Il y a encore eu d'ailleurs des grandes manifestations il y a quelques jours. Et la présidente de la République est française. Elle a été diplomate française. Elle parle donc un français forcément parfait.
Paris,
exactement. Mmh. Salomé Zourabichvili. T'as des rapports avec elle, Willy? C'est une compatriote au fond.
Non, pas du tout. Non, pas de son, pas d'image. Je suppose que peut-être le foot l'intéresse pas. Je sais pas.
Attends, t'es en train de me dire que la Géorgie que t'emmènes à l'Euro,
vous n'avez pas été reçu.
T'as pas été reçu par les autorités, les pouvoirs publics. Vous n'avez pas reçu de félicitations.
Alors,
ou quoi,
c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Je crois fin mai ou début juin. D'être, tu vois, décoré. L'équivalent en France, je te dirais peut-être là, ou ça doit être là, peut-être la Légion d'honneur, quelque chose comme ça. Et également le staff étranger, on devrait recevoir en signe de remerciement la citoyenneté géorgienne.
Ah bah oui, ils peuvent pas faire moins. Hein. En Afrique, ça c'est toujours, ils te donnent un passeport local. Hein, ça,
ton staff est français, Willy?
J'ai deux Français avec moi, oui. Mon adjoint et le préparateur physique.
Et est-ce que tu penses te préparer à une carrière désormais un peu de globe-trotteur comme Metsu, Renard, Leroy et d'autres?
Troussier.
Sincèrement, ça me plairait bien parce que les émotions que j'ai pu vivre avec la Géorgie là, ça risque de rester des émotions un peu uniques. Ça va être dur de faire mieux parce que c'est déjà bien ce qu'on a fait. Mais dans mon futur endroit où j'irai, oui, j'aimerais revivre des moments comme ça avec des projets qui se comptent en années, pas simplement en semaines ou en mois comme tu peux avoir dans d'autres endroits.
Là, tu sais ce que tu vas faire après l'Euro? Tu sais déjà si tu vas quitter, si tu vas rester ou pas encore?
Écoute, comme on dit, hein, moi j'ai encore un contrat, donc je suis pas le seul à pouvoir décider de ce qui va se passer. Je trouve le plus important pour l'instant, il est pas là. Le plus important, il est de se présenter du mieux possible à l'Euro, d'avoir une vraie performance là-bas, parce qu'on n'y va pas, en touriste, ou on n'y va pas comme le petit poussé qui veut voir commencer la première fois. Hein, c'est pas comme ça. Hein. Donc non, on va essayer de faire notre maximum là-bas, et puis après, écoute, on verra. Hein, tu sais, le foot, c'est entre les envies que tu as parfois et ce qui se passe, il y a souvent un décalage.
Et donc, et toi, tu rêves pas de Ligue 1, clairement, quoi, de revenir en Ligue 1?
Non.
Voilà.
C'est l'avantage de Willy, c'est qu'il se plante pas. Oui.
Non, mais pourquoi?
C'est juste, tu vois, sur les dernières années, oui, j'aurais eu la possibilité de revenir, mais je trouve que la Ligue 1, c'est, enfin, je sais pas, je trouve que ça devient compliqué. Parce que t'as un grand club qui est loin devant tout le monde actuellement et qu'aujourd'hui c'est un championnat qui est super compliqué. Souvent les ambitions des clubs avec les moyens mis en place, bah, souvent ça colle pas et le premier à payer ça c'est l'entraîneur. Et j'ai pas forcément envie de vivre ça. C'est pas du tout une critique ou quelque chose comme ça, mais j'ai envie de voir autre chose. Voilà, j'étais entraîneur en Ligue 1. J'ai passé 2 ans à Bordeaux. La première année, ça a été une super année. La deuxième année, ça s'est mal fini. J'ai apprécié ce moment-là, mais j'ai envie de vivre autre chose. Et puis, je sais pas, de vivre des moments avec une équipe nationale comme j'ai pu vivre et comme je peux vivre avec la Géorgie, au niveau national, c'est encore un degré supplémentaire en termes d'émotion et d'intensité.
Merci Willy.
Merci Willy.
On suivra l'Euro de près.
Ah bah oui, là maintenant.
Eh bah c'est gentil. Bah vous viendrez voir la finale, je vous aurai des places.
Ah,
c'est gentil, ça. C'est gentil.
Enregistré. Merci Willy, bonne soirée. À très bientôt.
À bientôt, à bientôt les amis.
Et bravo encore.
Dans un instant, Brest au programme, et puis l'Italie et l'Espagne.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
23h33, Daniel Riolo, là, Stéphane Guéla, Brulo Satin avec nous, agent numéro 001, bien sûr, comme je le rappelle souvent. Jingle Stéphane Guy, s'il vous plaît. Stéphane veut parler de Brest.
Il a tout tenté parce qu'il a tout raté. S'il n'avait pas tout raté, il n'aurait pas tout tenté.
Merci Stéphane. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé des autres, ces dernières 48 heures. Donc avoir ton avis sur Brest est intéressant. Que veux-tu nous dire ce soir ?
Parce que Brest reste sur 2 défaites.
Eh oui.
Je rappelle quand même qu'ils avaient eu un peu ce type de passage au mois de novembre et puis qu'ils avaient derrière enquillé une fameuse série d'une quinzaine de matchs sans perdre, en perdant contre des équipes qui leur sont de toute façon d'un standing supérieur. Non, moi je voulais t'avertir sur ça parce que je sens monter dans le PAF, le paysage footballistique français, je sens monter une petite musique qui se contenterait assez d'un Brest 5e par exemple, parce que pour dire oui, parce que Brest bon, c'est bien
ils
gentil, mais
ils
vont pas tenir le coup, ils sont en sur-régime sur cette année, ça, mais non, Brest c'est pas une équipe qui est en sur-régime, c'est l'équipe qui a montré sa régularité et qui au mérite tout simplement d'être, à mon sens, dans le top 4 de la Ligue 1 cette saison. Voilà, donc j'espère que le mérite sera pour une fois.
Il mérite. S'il s'écroule sur les prochains matchs, ils mériteront plus.
Oui, mais j'exprime un avis un peu anticipé. Daniel, je pense qu'ils ne s'écrouleront pas et qu'ils vont aller la chercher, cette quatrième place, et qu'ils mériteront de l'avoir, et que ce qu'ils ont fait cette saison,
vont la chercher, bien sûr qu'ils mériteront.
Ça doit être.
Mais pourquoi tu penses qu'on douterait du mérite ou qu'on aurait un avis contraire à
ça? Parce que ça dérange quelque part de voir un club comme Brest en Ligue des Champions. On pense que ça va plomber.
Il s'est mis dans le camp des on dérange, lui.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, parce que je sens cette musique-là monter. Pas par rapport à l'arbitrage, je sais pas quoi. Je suis pas du tout dans les théories clopotistes.
Non, Stéphane, mais alors là, je ne te suis pas, pardon.
Bah, si, il y a beaucoup
de. Explique-moi ton idée de ça dérange.
Enfin, déjà, est-ce que tu as fini ton avis avant
Je termine.
Il y a beaucoup de suiveurs. Par Daniel.
Il y a beaucoup de suiveurs du foot qui aimeraient sans doute que des clubs mieux structurés, avec des stades plus importants, représentent la France avec des champions. Donc moi, je souhaite que Brest soit en Ligue des Champions, mais je souhaite même que Brest termine 3e de Ligue 1 de façon à ce que la place soit acquise et qu'effectivement, Brest 4e, c'est à la fois un danger pour le club et pour notre football, parce que ce sera compliqué pour eux de franchir ce tour-là. Donc je souhaite pour qu'on ait 4 clubs en Ligue des Champions la saison prochaine, je souhaite que Brest termine sur le podium de la Ligue 1. Il le mérite.
Les premiers mois de la Ligue 1, je dis toujours, et c'est vrai, vous pouvez vérifier, je pense que c'est mieux pour le football français que ce soit les gros qui aillent en Ligue des Champions, parce que globalement, c'est mieux pour notre structure, notre fonctionnement. À l'arrivée, je n'ai plus rien à souhaiter. Si Brest y va, les premiers mois de compète, on peut dire c'est la preuve que notre championnat va pas bien, c'est la preuve que machin ceci cela, c'est quand même pas glorieux machin et tout. À la fin, au point où on en est maintenant, si Brest doit finir comme tu dis 3, 4, 2 ou je ne sais quoi, eh les amis, bravo hein. Allez-y, on n'a rien à dire.
Vous l'avez bravo, mérité. Et bravo, vous y êtes, déjà.
On
ne
parle plus. C'est formidable ce que vous avez fait. Il y a aucun problème. Et les autres, bah, bien fait pour votre tronche si vous n'y êtes pas.
Mais même avec les quelques derniers matchs où ils ont pris moins de points, où ils n'ont pas pris de points, le contenu des matchs reste d'un niveau mais exceptionnel par rapport aux joueurs à disposition. Je veux dire, et la qualité du jeu. Enfin, je veux dire, c'est plaisant de regarder les matchs de Brest. C'est super intéressant. Il y a plein de trucs. Il y a des joueurs qui font des choses incroyables. Que ce soit, on en parlait, Del Castillo ou le petit Camori Doumbia. Il y a des joueurs qui nous font des trucs super. Donc les matchs sont hyper intéressants.
Le petit Doumbia, j'imagine toi qui connais les joueurs depuis longtemps, tu pensais qu'il pouvait. Je trouve que cette année, il a atteint un très bon niveau. En plus, dans un rôle qu'on voit plus
hybride
dans le foot, il est 10, quoi.
Bah, il a toujours été un petit peu comme ça. C'est un gamin qui sort de.
On en voit peu des joueurs qui jouent à ce poste-là comme il est lui.
Il a toujours été comme ça. Bon, il était dans l'équipe nationale du Mali, il sort de JMG à Bamako, quoi. Jean-Marc Guillou Academy.
Quand t'es passé par Jean-Marc Guillou, tu sais jouer au ballon.
En général, t'as pas les pieds palmés. Hein, donc ça, je te confirme. Tous ceux qui sont passés là, ils ont une bonne maîtrise
et intelligence du jeu surtout. Un très bon but.
Comment il se met entre les lignes et tout, la passe en retrait l'autre jour sur le but,
magnifique.
Un régal. Putain, c'est le football, ça c'est le football.
J'ai adoré ça.
Hein, il prend toute la défense à revers.
Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Parce que avant, je l'avais vu jouer, je l'avais vu faire des trucs et tout. Quand il a fait cette passe, je lui dis, oula, cette passe là, c'est autre chose.
Donc là, il y a la question de ce qui va se passer pour lui à la fin de saison, puisque c'est un joueur qui appartient à Reims. Donc, je pense que sans doute Brest va essayer de le garder, mais ça va être difficile.
Qui va se poser à Brest, hein. C'est les joueurs qui vont vouloir partir pour aller prendre un chèque plus gros. Si Brest peut pas leur donner, ceux qui restent
un an de contrat,
club,
comme Brassier,
vont vouloir aller voir ailleurs. C'est en fait la vraie difficulté pour le club, un petit club qui se qualifie en Coupe d'Europe, c'est ça, c'est comment ça vit l'année d'après, quoi.
Et puis que il y a aussi un président qui fait une gestion bon père de famille et qui va pas se mettre à l'agonie. Pour en avoir discuté un peu avec Greg Lorenzi, quand il rentre 8 ou 10 millions de transferts, on va lui donner 2 à dépenser, quoi. Hein, donc il faut refaire des miracles. C'est le problème des fois quand on fait trop bien, les gens s'habituent, quoi. Et c'est pas facile derrière.
C'est vrai. L'attente du public, justement, est très élevée. Un peu ce qui se passe à Lens aujourd'hui. On oublie que c'est pas des clubs qui sont bâtis, structurés. Encore moins Brest que Lens, évidemment. Pour être top 3 français, quoi.
Alors, tu veux dire que quand tu t'habitues au foie gras, c'est dur d'aller au pâté?
Il y a du bon pâté.
Bien sûr qu'il y a du bon pâté.
C'est vrai. Surtout chez nous, en Normandie.
En Normandie, il y a du pâté?
Oh là là. Charcuterie normande, Daniel.
Bon, voyons.
Ou pas un petit pâté en croûte alsacien? Excuse-moi.
Ouais, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Voilà.
Juste le calendrier de Brest quand même. Ils n'ont pas le calendrier le plus dur, très franchement.
Non.
Bon, là ils vont à Rennes. Voilà, Rennes c'est un peu refait et tout, on va voir. Derby breton. Ensuite ils reçoivent Nantes, ils reçoivent deux fois d'affilée, ils reçoivent Nantes et Reims avant de finir à Toulouse, qui a priori ne jouera plus rien sur la fin de saison là. Donc voilà, ils ont.
S'ils ont 3 victoires sur les 4 matchs, oui ils y seront.
C'est sûr. Exactement.
Ils ont un point d'avance sur Lille pour l'instant.
Bon. Voilà l'avis de Stéphane sur Brest, c'est très bien. Et on va donc pouvoir passer maintenant
au foot européen. C'est vrai qu'au-delà de l'avis, c'est-à-dire que ce que disait Bruno, c'est merci Brest, parce qu'ils nous ont quand même égalé formidablement cette saison de Ligue 1. Comme Lens nous avait régalé l'année dernière.
On va pas mentir, Eric Roy, on n'y croyait pas au début. On dit, mais tiens, ça était hors circuit depuis un moment.
Non, mais il nous a bluffé. Y croire pour une opération maintien, et puis y croire
pour
cette année. Parce que
chapeau l'artiste.
Il croyait en lui.
C'est quand même le mieux dans la vie. C'est d'abord de croire en soi.
Déjà.
Lui, il pensait. Et de ne pas laisser les autres décider qui on est. C'est mieux.
Exactement. Dans un instant.
Très bon joueur de poker, Eric Roy.
Ah bon?
Faut le savoir.
Très bon golfeur aussi, je crois.
Ah, golfeur, je ne sais pas. Joueur de poker, je le sais.
Ah oui.
Voilà, on l'a bien brossé, là. Eric,
comme m'a dit un jour Jérôme Alonso, Eric, il fait chier. Il joue bien et il a de la chance. Et au poker, ça aide d'avoir les deux.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, c'était un bon joueur de foot aussi, par ailleurs.
Oui, mais ça, oublié, pas besoin de le dire, on le savait déjà.
Ah, ça va être sur rebut avec Marseille contre Lens. Qui était rentré et que l'arbitre a dit il n'est pas rentré. Non, exact. Dans un instant, on part en Italie. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h41, Daniel Riolo, là, Stéphane Guy est là, Bruno Sata avec nous également ce soir. Et on accueille Johan Crochet. Ah. Johan, bonsoir.
Et jeune.
Et Fred Hermel qui est là également. Salut Fred.
Hola chicos.
Ah, les deux ensemble.
Bon, ouais, ils sont là.
Bah, c'est le front latin.
Ah, d'accord.
Le front, exactement. Le front. Attention, parce que les Germains pourraient
le faire mal. Le Jean-Bonico.
Oui, c'est ça.
Donne-nous des news de l'Atalanta. Dans une semaine, c'est le match aller contre l'OM. Hier, l'Atalanta s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. Ils ont un sacré calendrier, hein, l'Atalanta. Bon, bah voilà. Est-ce que tu vas inquiéter les supporters marseillais ou plutôt les rassurer?
Ah, je sais pas. Moi, ce que je vois d'Atalanta, c'est que c'est une équipe que j'aime. J'allais dire toujours autant, un peu moins la saison dernière, parce que le recrutement très.
Oula, tu nous entends bien, Johan?
C'est quoi cette communication? On entend rien.
On entend très très bien.
Ah, non, mais nous, on t'entend moyennement, ça va, ça vient.
Ben, c'est les Alpes. Hein.
Bon, continuons, on verra s'il y a un problème, on rétablira une ligne correcte.
Je sais que c'est une équipe que j'aime.
Bon, on va le faire.
Il y a un vrai problème.
Voilà. En attendant.
Toi qui vois jouer l'Atalanta, qui connais bien ce club et tout, l'OM, là, si. Comment tu vois ça, toi?
Bah, c'est un rouleau compresseur, hein, en ce moment. Je veux dire, non seulement, bon, ils ont toujours été physiquement, déjà, ils vous imposent une épreuve énorme. Ils ont un banc, c'est-à-dire, ils font des rotations, ça fonctionne toujours. Devant, enfin, au milieu, Combiner, c'est en feu. Scamacca, claque but sur but, il a encore mis une volée hier exceptionnelle, là. Même s'ils ont fait la différence que dans les arrêts de jeu contre la Fiorentina. Mais franchement, c'est une machine, hein, l'Atalanta.
L'Atalanta, pour toi, largement favori de la confrontation.
Enfin, en tout cas, si l'OM venait à passer, ça serait un exploit.
Mmh. Johan, t'es d'accord avec ça?
Oui, oui. Bah, le match qu'ils font contre la Fiorentina hier est très impressionnant. Ce que capable de faire cette équipe de l'Atalanta depuis pas mal d'années maintenant. Je disais, c'est une équipe que j'aimais beaucoup, sauf la saison dernière où le recrutement très Première Ligue avait été un peu décevant parce qu'il y avait beaucoup de muscles et beaucoup moins de technique après la perte de ce que les gens ont encore en mémoire de l'Atalanta du Papu Gomez et de Ilicic. Mais là, l'arrivée cette saison d'un joueur comme De Ketelaere a fait beaucoup de bien, hein, beaucoup de liens entre le milieu de terrain et l'attaque, la nouvelle dimension de Cop Miners au milieu de terrain, et ça aide beaucoup aussi techniquement, et Scamacca devant est un neuf qui peut faire pas mal de choses, et donc ils ont rajouté une dose de technique qu'ils avaient un petit peu perdue. Mais il y a toujours les mêmes ingrédients d'agressivité. Je regardais tout à l'heure un peu de data. C'est l'équipe qui provoque le plus de duels, le plus haut sur le terrain en Italie. C'est la troisième meilleure attaque. C'est l'équipe qui cadre le plus ses tirs. C'est vraiment une très, très belle équipe. Et il y a la dimension physique qu'il faudra supporter pour l'OM. Parce que cette équipe-là, et je le disais il y a pas longtemps dans les drôles de dames le lundi soir, à force de jouer en mode européen chaque week-end, c'est-à-dire en mettant les ingrédients d'une confrontation européenne, en mettant beaucoup d'intensité, en mettant beaucoup de volume de course, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de joueurs qui occupent les espaces libres, etc. Et ben en Europa League, tout devient plus facile parce qu'ils ont l'habitude de ce type de confrontation-là.
Vous connaissez.
Ils élèvent le niveau chaque week-end.
Vous connaissez tous, enfin, bon, Johan certainement, c'est la phrase célèbre d'un entraîneur qui devait jouer contre l'Atalante.
C'est Guardiola.
Et donc, à l'époque, ouais, et qui dit, ben, jouer à l'Atalante, c'est comme aller chez le dentiste, quoi. Ouais. Donc, bon, pour l'OM, il va falloir aller chez le dentiste, ça sera pas facile.
Non, c'est vraiment, et puis, Gasperini réussit toujours quand même à la fois mettre les joueurs dans le moule et à faire passer des caps à des joueurs qui sont des bons joueurs, mais sortis du contexte Atalanta, ça serait pas les mêmes joueurs. Vous prenez un joueur comme Jim City.
C'est normalito.
Le leader de la défense, c'est pas un grand joueur. Il y a plein de joueurs comme ça dans le passé plus ou moins récent, et même encore dans cette équipe-là, qui sont pas des joueurs exceptionnels, qui sont pas des joueurs qui seraient capables de jouer la Ligue des Champions toutes les saisons dans d'autres contextes, qui sont pas forcément des joueurs appelés en sélection nationale, ou en tout cas qui sont pas des titulaires en sélection nationale. Et malgré tout, Gasperini, avec sa méthodologie, avec son exigence, avec la confiance qu'il donne aux joueurs, avec la capacité à manier le bâton et la carotte quand il faut, réussit à... Vous prenez un joueur comme De Ketelaere qui était au fond du trou à Milan, la cure Gasperini lui fait un bien fou, il retrouve de la lance, sa capacité à faire des différences, à se placer entre les lignes, à être bon techniquement, à à prendre la profondeur, à faire jouer les autres, à être en décalage permanent avec ce que recherchent les défenseurs comme point d'appui. Lui, il est un joueur libre, électron libre, dans un système pourtant très huilé, de très bien huilé. De...
Mais il est là depuis combien d'années, Gasparini, à la tête de l'Atalanta?
Oula, ça fait extrêmement longtemps. J'ai pas le nombre
plus
d'années.
10, exact. Non? Ouais, plus que 10. Ouais.
Ouais, pardon pour la colle. 10.
Mais au début, il faut se rappeler que quand il est arrivé, c'est une équipe qui luttait pour le maintien. Donc, ouais. Il bénéficie d'une stabilité managériale au niveau de la gouvernance du club avec la famille Percassi, qui donne une tranquillité et une assise économique.
8 ans, il est là depuis 8 ans.
Extraordinaire.
Seulement 8
2016.
Ouais, ça faisait moins que ça.
C'est énorme dans le foot. Rappelons surtout que c'est un entraîneur qui a trouvé son club, qu'on lui donne le pouvoir et qu'il fait ce qu'il veut, mais que c'est un type pas sympa, que c'est un type dur. Et que quand il a essayé sa méthode dans d'autres clubs, ça s'est très mal passé, qu'il a pas une super image en Italie, que beaucoup de gens disent que c'est un con, que quand il parle, il se prend pour un autre, qu'il se la raconte, machin. Mais que dans son cocon de club de l'Atalanta, bah vas-y, fais ce que tu veux, c'est toi le patron.
Ouais, enfin bon, c'est quand même un club qui est dirigé, je veux dire, bon, pendant beaucoup d'années, la réussite aussi de l'Atalanta est venu à travers Gasperini, mais aussi Giovanni Sartori, qui venait du Chievo et qui maintenant est parti à Bologne. On voit avec quelle réussite. Donc c'est vraiment, en plus, ils pouvaient pas se sentir, Gasperini et Sartori. Cela étant, ils ont réussi à travailler ensemble pour le bien du club. Et donc ça.
C'est fou quand même quand deux types comme ça peuvent pas se blairer et
ils
vont bosser ensemble.
C'est ce qui a amené d'ailleurs aussi Sartori à partir à Bologne.
Évidemment.
Parce qu'ils n'en pouvaient plus. À la fin, ils étaient même. Enfin, c'était même pas possible qu'ils mangent à la cantine ensemble, donc ça devenait un peu...
Non, mais personne n'en parle, enfin, j'en profite pour faire une aparté là-dessus, mais bon, Sartori, c'est le meilleur directeur sportif bien en sûr. Italie, et de loin, je veux dire. Mais
les Bruno, il faut écouter l'after le lundi, parce que j'ai répété plusieurs fois cette saison.
Ah non, mais bon,
et voilà.
On peut pas être toujours...
Plutôt que de faire des deals, Bruno, il faut écouter l'after.
Non, mais des fois, on va au match, tu sais, il y a des fois, il y a des matchs le lundi. Hein.
Bah, match de Ligue 2 le lundi, Bruno, il est à Grenoble, à Valenciennes, c'est comme ça.
Attends, vendredi, avant d'aller à Zagreb, j'étais à la Youth League à Genève.
Bien sûr.
Ah, t'allais voir Nantes, Olympiakos, là?
Ouais.
Et tu veux pas placer Milan, un bon directeur sportif à la Juve, mais plutôt pour qu'il fasse les bons choix en France.
Non, il est là, le directeur sportif.
Il vient de prendre Giuntoli, donc.
Parce que là, il va falloir quand même qu'il fasse quelque chose. Hein. J'ai beaucoup de gens dans la famille, ils sont en déprime. Hein.
Non, bah, je peux dire, ils peuvent
j'ai
être inquiets.
Pour l'entraîneur au cas
ils
où,
peuvent hein. être inquiets, je crois qu'ils ont pas d'argent. Donc, comme ouais, ça.
Fred, il a un mec à placer à la Juve.
Ouais, mais ça sera pas celui-là, mon Fredo.
Ça va pas être. Mais non, c'est.
Il faut que j'actualise ma biographie.
C'est Thiago Motta.
C'est Motta.
Thiago Motta, il s'est mis sur le chemin.
C'est Motta, mais.
Attention. Je lisais ce matin la Gazzetta qui expliquait que. Commencer à avoir des bruits de couloir comme quoi en cas de Ligue des Champions peut-être que Bologne réussirait à garder Thiago Motta. Bon,
ah ouais.
Dans un instant, on continue le débat italien espagnol.
Thiago Motta risque de voir arriver une offre assez faramineuse dans l'Arabie Saoudite, mais il devrait refuser.
Johan, merci
il
beaucoup.
Il refusera, d'après ce qui se dit.
Et on se tient au courant tout le week-end sur l'Atalanta. Dans un instant, Xavi au programme. Je vous rappelle que d'ici minuit ou même demain, toute la journée, enfin quand vous voulez, vous allez sur l'after.media, le site de la revue de l'After. On vous a fait un petit cadeau. Là, il y a un code promo. RMC 24, 20% de réduction sur les abonnements annuels avec ce code. Donc allez sur l'after.media, vous allez voir les offres d'abonnement et hop, tac, 20% de promo.
Stéphane, 10 millions par an en Arabie Saoudite.
Vous tapez file. RMC 24.
Moi
Non.
10 millions par an.
Non,
je m'occupe le mytho, tu l'as dit.
J'ai fait exprès de poser la question.
Non, l'argent, c'est pas tout, Daniel.
C'est important.
Fredo,
c'est important là.
10 millions, 5 millions par an en Arabie Saoudite.
Bah, t'as dit 10.
Bah oui, à toi je te fais moins.
Non.
T'as moins besoin de moi, Fredo.
Moi je veux pas moi.
Toi j'ai senti qu'il y avait besoin de mettre moins pour te convaincre.
Non. T'as dit 10.
Bon alors 10.
Ah bah oui.
5.
Non.
Bon le
menteur.
Mais c'est pas vrai, mais quelle bande de faux culs tous.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
23h53, Daniel Riolo, Stéphane Guy, Bruno Sata et Fred Hermel. Fred, explique-nous ce qui est passé par la tête de Xavi pour, il y a quelques semaines, nous dire « je me casse, j'en peux plus », machin. Ah, bah finalement, je reste.
Mais c'était fin janvier, après la défaite terrible à domicile contre Villarreal, que Xavi avait annoncé sans consulter son président. Hein. Il avait pas négocié avec lui. Il dit je partirai à la fin de la saison, j'arrête mon contrat. Alors son contrat, en fait, il décide d'aller jusqu'au bout de son contrat qui est dans un an, enfin en juin 2025. À chaque fois qu'on lui posait la question, il disait non, ma décision est prise. Et puis c'est vrai que depuis quelques jours, on sentait que Xavi n'était plus dans la même certitude, parce qu'en fait, finalement. À partir du moment où il a annoncé son départ, ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait zéro défaite. Et puis, il y a eu la semaine noire de la semaine dernière, avec cette élimination face au PSG avec la défaite à domicile, et puis la défaite dimanche contre le Real dans le Classico. Donc, deux titres qui ont été perdus la même semaine. Et là, Xavi, finalement, on avait le sentiment qu'il n'avait pas envie de partir sur un échec. On sentait déjà qu'il avait envie de finalement de rester. Et puis, quelque part, le président Laporta, il n'a pas mieux sous la main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barça est un club qui sait qu'il ne peut pas recruter, qu'il doit vendre des joueurs pour pouvoir recruter, qu'il doit trouver de l'argent, et que Xavi est en mesure d'accepter qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de recrues, ou peut-être rien du tout. Et donc, pas sûr que des grands noms européens, les entraîneurs, quand ils viennent dans un club comme le Barça, ont envie d'avoir les moyens de travailler, d'apporter des joueurs, de faire venir des joueurs qui leur correspondent. Et là, le Barça, financièrement, n'en a pas les moyens. Donc, finalement, les deux ont besoin l'un de l'autre. Xavi, de pas partir sur un terrible échec parce que c'est zéro titre cette saison. Et Laporta, finalement, d'avoir un entraîneur qui est un gars de la maison. Donc, ils ont beaucoup joué dans leur communication sur le fait que Xavi, c'est un homme de la maison, qu'il veut se battre pour le club, qu'il a de l'énergie. Ils ont fait une conférence de presse aujourd'hui pour montrer que le président dit, j'ai proposé à Xavi j'accepte que Xavi continue parce que je sens qu'il a l'énergie, que des choses commencent à prendre. Bon, bah, c'est de la com. Mais finalement, c'est une solution qui est pas si mauvaise que ça, vu la situation du club.
Bon, vous êtes surpris par tout ce qui se passe à Barcelone, les gars. Ou alors on dit qu'il y a des grosses difficultés économiques, hein, comme le dit Fred. Donc peut-être que
il peut changer d'avis. Effectivement, depuis la claque contre Villarreal, ça joue quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a des choses qui sont porteuses d'espoir pour l'année prochaine. Il peut améliorer l'équipe. Son équipe déjà elle est pas mal. Il a retrouvé un style. Moi, je trouve qu'il a fait ça un peu sur un coup de tête de dire je me barre comme ça. L'élimination contre le PSG, je trouve qu'elle a rien d'infamante dans le sens où le match aller, c'est très bien. C'est plus des erreurs de jeunesse qui ont fait que le club s'est retrouvé à 10 contre 11 et que ça s'est terminé.
Il prend une bonne branlée au retour quand même.
Oui, mais
Si tu regardes le résultat sec.
Voilà, au-delà du résultat sec, je pense que le Barça pouvait faire mieux. Ça a bien tourné. Les matchs de Ligue des Champions parfois se jouent comme ça. Il y a une erreur d'un défenseur qui fait un truc qu'il doit pas faire. Ça met le club dans la panade complète.
Surtout
derrière.
C'est le meilleur défenseur, quoi. C'est dingue.
Enfin, mais sinon, dans le contenu global, je trouve que le Barça est plutôt en progression.
Et comme dit Xavi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il l'a dit à l'Espagnol, mais voilà, c'est vrai. Il a le droit de changer d'avis. Et c'est vrai qu'il y a de bons joueurs chez les jeunes. Après, ils vont être obligés de vendre certains joueurs. On parle beaucoup d'un départ vraiment certain. Enfin, cette fois, il semblerait disposé à partir de Young. Donc, tu récupères de l'argent aussi. Donc, tu peux peut-être faire un petit recrutement, etc. C'est-à-dire que Xavi sait qu'il aura pas de révolution dans son effectif.
Après, mais on entend depuis 5 ans qu'ils ont pas d'argent, Encore Gundogan l'été dernier qui arrive. Il gagne pas le SMIC, hein, au Barça.
Rafinha, 50 millions.
Je suis quand même toujours étonné quand j'entends ça, quoi. C'est un club, l'OM, il recrute des seconds couteaux. Le Barça, il continue de recruter des joueurs de top class internationale, quand même.
Ouais, mais après, il y a les règles du fair play financier espagnol qui est terrible. Vraiment, si tu dépenses de l'argent, tu peux en mettre que très peu. C'est-à-dire, tu vends un joueur, l'argent que tu récupères, tu peux en mettre que très peu sur un nouveau joueur. Donc, les règles sont pour protéger les finances des clubs espagnols.
Il y avait des recettes diminuées à cause du stade aussi cette année.
C'est la moitié, hein.
Ils ont des jeunes quand même. Ils ont des jeunes très intéressants. Enfin, ceux qu'on a vus là contre le Paris Saint-Germain.
Merci Pedri.
Oui, mais ils ont peut-être pas envie de les vendre tout de suite. Hein.
Non, mais il y a un truc aussi, c'est que les dirigeants ont exigé de grands changements au sein du staff technique. Il a réussi à sauver son frère, qui était mal barré. Son frère Oscar, qui va continuer d'être son second, alors qu'à un moment, les dirigeants voulaient qu'il s'en aille. Et surtout, dans la préparation physique, où il y a eu beaucoup de blessures cette saison, où il y aura un nouveau préparateur physique et d'autres personnes dans le staff. Donc, il y aura quelques évolutions quand même dans la manière de faire marcher cette équipe.
Et il faut aussi qu'il se calme un petit peu sur le banc. Il est un peu énervé, quoi.
D'ailleurs, j'ai découvert qu'il avait la même voix que Jean-Jacques Bourdin.
Pardon ?
Et j'ai découvert qu'il avait la même voix que Jean-Jacques Bourdin.
Xavi ?
Vous avez vu sa voix ? C'est une voix étonnante.
Ouais.
Une voix très très grave, très, tu vois, Jean-Jacques, quoi.
D'accord.
Alors okay. Ça, j'avais jamais fait le parallèle, mais je te le concède.
La prochaine fois que tu l'entends, tu.
Oui, oui. Il va peut-être finir à Nîmes comme coach. Ah, peut-être.
Pas mal.
Merci Fredo.
Adios, Sikos.
Tiens, notre grand jeu, vous savez que demain, on est le 26.
Ah oui. Et donc, vendredi 13, quel rapport ?
Bah, justement. Comme RMC vous fait les cadeaux, on vous offre demain 26 000 euros. Pourquoi ? Parce que 13 x 2 égale 26.
Oui. Bon,
t'as tout suivi, Daniel ?
Pas super bien expliqué comme hier, non, mais
donc,
l'important,
demain,
c'est que tu donnes l'oseille. C'est bon.
Demain, il y aura les tickets RMC à gratter. Si vous voulez participer, vous envoyez maintenant chance par SMS au 732-16. Chance par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, demain, vous aurez donc la possibilité de gagner 26 000 euros. Tentez votre chance. Et tout de suite, pour conclure, c'est Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Encore 10 membres de l'After présents dans ce Survivor. Ouais, pas mal de monde joue Paris ce week-end qui reçoit Le Havre.
Oh là là,
Courbis, Vexio.
J'aime pas quand les gens se laissent aller à la facilité.
Jamin, Diaz, Villas, Bribois, Eloussaïef.
Oh mon Dieu.
T'avais dit ça avant Paris Clermont, d'ailleurs.
Oui,
j'avais pas joué Paris.
Exact. Jean-Louis Tour joue Rennes qui reçoit Brest. Et Daniel et Thibaut Leplat jouent Lille qui va à Metz.
Voilà.
Grosse prise de risque.
Ah bon ?
Ah bah attention, Mikotadze.
Je pense que je suis encore là lundi.
On verra. On ramassera les copies. Merci Bruno d'être venu.
Toujours un plaisir.
Prochain match au stade ?
Là, tout de suite. PFC à 19h. Demain soir, Versailles. Versailles-Orléans à Jean-Bois.
Voilà, en national. Tranquille.
Alors demain, il y a un grand match de basket. La finale de la Coupe de France féminine, Alençon-Monaco. 18h à Bercy. Je vous y invite.
Et tu seras ?
Tu serai.
Bravo.
De basket.
Des Bravo. Filles à Alençon. Allez, Alençon.
Allez, à demain soir avec l'After et la Ligue 1 qui sera de retour, bien sûr. Bye bye.
RMC, l'After Foot.